on débute bien la journée avec le journal d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
À la une, la fin de l'état d'urgence sanitaire et avec lui le retour possible des expulsions locatives. Le ministère promet des solutions, mais les associations s'inquiètent. Les autres titres, Hélène.
Alstom cède une usine au carnet de commandes plein. Les salariés ont du mal à y croire. La flèche de la cathédrale Notre-Dame sera bien reconstruite à l'identique. Le souhait d'Emmanuel Macron, confirmé hier soir par l'Elysée. Des drones armés qui inquiètent l'ONU. Et puis un air de vacances en bord de Seine. Les touristes étrangers reviennent.
À 7h50, il sort l'un des films les plus attendus depuis la réouverture des cinémas. François Ozon à notre micro. Et puis à 8h20, Guillaume Pépi sera l'invité du grand entretien. Sa solution à la crise, eh bien, c'est de devenir patron. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
France Inter.
L'état d'urgence sanitaire, ce soir minuit, c'est donc fini. Il était en vigueur depuis le 24 mars dernier. Et même si des mesures restrictives sont encore possibles, de circulation, de rassemblement, de nombreuses autres disparaissent. Le plafond d'exonération d'impôts qui avait été relevé sur les heures supplémentaires, le délai de carence raccourci en cas d'arrêt maladie, la trêve hivernale qui avait été prolongée s'achève également. Aux grandes dames des associations, pas tout à fait rassurées par les garanties renouvelées hier du ministère.
Changement de ministre, mais pas de ligne. Emmanuel Wargon l'a promis hier, si la trêve prend fin aujourd'hui, cela ne veut pas dire, assure-t-elle, que les expulsions vont reprendre comme avant. Une circulaire a été signée début juillet, avec deux règles précises qu'elle a rappelées au préfet.
Pas d'expulsion locative s'il n'y a pas de proposition faite de relogement ou de mise à l'abri, et pas de fermeture de place d'hébergement sans que des solutions soient proposées aux personnes.
Si les associations saluent le travail mené durant cette crise Covid, les 20 000 places d'hébergement supplémentaires créées, Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre s'inquiète de l'application de cette circulaire par les préfets.
On a eu des échos de beaucoup de préfets qui disaient qu'ils essaieraient de la respecter, mais qu'ils ne la respecteraient sans doute pas forcément. Quand les préfets n'expulsent pas et donc ne respectent pas les décisions de justice, les préfets doivent indemniser les bailleurs. Or, il y a un fonds national d'indemnisation des bailleurs privés qui est à la disposition de chaque préfet dans chaque département, et ce fonds n'a pas été augmenté. Donc ça va être un rapport de force, on va essayer de montrer que c'est un drame aujourd'hui de remettre à la rue des personnes expulsées dans un contexte où le virus n'a pas disparu, où il y a 1 million de chômeurs en plus, et que donc les personnes qui sont expulsées cet été auront beaucoup de mal à retrouver un emploi, un logement et ne serait-ce qu'un hébergement.
Un rapport de force que les associations veulent entamer dès demain avec une manifestation à Paris à l'appel d'une vingtaine d'organisations et de syndicats.
Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire hier soir, jugeant toutefois que tout nouveau confinement, y compris localisé, ne pourrait passer que par un nouvel état d'urgence. État d'urgence qui reste en vigueur à Mayotte et en Guyane où sera le Premier ministre dimanche. C'est le territoire français le plus touché par l'épidémie en ce moment. Plus de 5500 contaminations, des hôpitaux saturés et une gestion de crise avec un confinement localisé qui pourrait illustrer la stratégie du gouvernement en cas de deuxième vague. C'est le reportage de Thibault Lefèvre.
Un confinement ciblé pour isoler les principaux foyers épidémiques, une vingtaine de quartiers environ, et permettre, malgré le virus, à l'économie de continuer à fonctionner. C'est la particularité de la stratégie adoptée depuis plusieurs semaines maintenant par les autorités. Marc Delgrande est le préfet de Guyane.
On n'a jamais déconfiné, on a toujours gardé des mesures de freinage qu'on a guyanisées. Les mesures ne sont pas uniformes parce que le virus ne circule pas de la même façon sur l'ensemble du territoire guyanais.
Parmi les autres mesures, la mise en place d'un hôpital de campagne chargé d'accueillir les urgences non-Covid, l'arrivée de 200 personnels soignants supplémentaires, le quadruplement du nombre de lits de réanimation et le transfert régulier de patients par avion vers les Antilles. Clara Debord est la directrice générale de l'Agence régionale de santé.
Je n'ai jamais vu un tel déploiement de moyens. Nous ne sommes toujours pas débordés au plan de la réanimation. Donc en fait, il y a une intensité de moyens qui doit nous permettre de passer cette vague sans confinement.
Si le système de santé tient, l'économie est-elle au bord de la rupture? Et c'est l'autre défi qui attend le Premier ministre. 30 000 personnes, soit 10% de la population, bénéficient aujourd'hui de l'aide alimentaire. C'est 6 fois plus qu'avant le début de l'épidémie.
Et dans son dernier bulletin, la Direction générale de la santé pointe une hausse des interventions de SOS médecins en France depuis mercredi. C'est confirmé, Notre-Dame sera bien reconstruite à l'identique. C'est le souhait d'Emmanuel Macron. L'Élysée l'a fait savoir hier soir. Le président avait un temps envisagé un geste architectural contemporain à la place de la flèche de la cathédrale. Mais il se range finalement à l'avis des experts, ne souhaitant pas retarder le chantier.
Une usine à vendre maintenant. Et pourtant, son carnet de commandes est plein jusqu'en 2024.
Alstom dans le Haut-Rhin. Le groupe vend le site de Reichshofen pour racheter son concurrent Bombardier et éviter un veto de la Commission européenne et de l'autorité de la concurrence vigilante sur les situations de monopole. Mais forcément, vu la santé de l'entreprise, les salariés ne s'y attendaient pas du tout. Daniel Dreger, porte-parole de l'intersyndicale CGT-FO-CGC.
Moi, j'en ai gros sur le cœur. Les salariés, c'est vraiment la douche froide, un coup de massue. On n'a jamais pensé que Reichshofen, on va pas se débarrasser d'un site Alstom. Les salariés ne comprennent plus. On ne sait plus à quel sein se vouer. Ils nous ont vraiment vendus comme n'importe qui, comme si on n'était jamais rien. Et on travaille quand même depuis 20 ans pour Alstom. On a fait des bons produits et tout. Et là, ils nous revendent. On ne sait pas. Demain, s'il y a un acquéreur qui vient, ben je reprends Reichshofen. Mais je veux 200 salariés en moins. C'est des tractations que eux vont faire avec l'acquéreur. Et nous, normalement, on aura très peu voix au chapitre. C'est ça le problème. Et c'est de ça que les salariés ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, de ce qui va arriver. Est-ce qu'on va encore continuer pendant 10 ans, 30 ans, ici sur Reichshofen? C'est vraiment, comme dit, un coup de massue. On est vraiment, en plus, écœurés. Ça fait très mal.
Soizic Pelé a recueilli le témoignage de Daniel Gréguer pour France Bleu Alsace. L'économie au cœur de la relance. Troisième budget rectificatif voté hier à l'Assemblée nationale avec 45 milliards d'euros supplémentaires pour secourir le tourisme, l'automobile, l'aéronautique et un amendement voté imposant des contreparties écologiques plus fortes. La publication annuelle d'un rapport sur la réduction de leurs gaz à effet de serre, notamment un leurre, un simple greenwashing, ont dénoncé la gauche et les ONG environnementales. La relance verte soutient l'emploi et massivement. La transition énergétique permettrait de soutenir 1 million d'emplois en France d'ici à 2022. C'est le dernier rapport de WWF qui l'affirme. Si l'État y met les moyens, évidemment, autour de 14 milliards selon l'ONG. On y revient en détail dans le journal de 7h30. La politique à peine remis les municipales, les partis regardent déjà vers les sénatoriales. Ce sera le 27 septembre prochain, c'est presque demain. Les élus locaux choisiront leurs sénateurs dans la moitié des départements français. Et cela s'annonce mal pour La République En Marche, Maxence Lambrecq.
Un obstacle de plus. Pour modifier la Constitution, le président a besoin du Sénat. Il lui faudrait au moins 160 sénateurs à ses côtés pour atteindre la majorité des 3/5 des parlementaires. Un score inatteignable après la claque des municipales. Le groupe de La République En Marche va même perdre son président, François Patria. Le sénateur de Côte d'Or sera, sauf surprise, battu par un socialiste en septembre. Et Didier Guillaume, qui vient de perdre le ministère de l'Agriculture, va aussi perdre son siège au Sénat. Un tiers du groupe risque de s'envoler, ne seront plus que 15, selon les projections du cabinet Spin & Strategy. Et c'est la gauche qui va en bénéficier. Le PS devrait récupérer une dizaine de sièges, les écolos au moins 5. Quant à la droite, elle va garder la main aux côtés de l'UDI. Gérard Larcher peut dormir tranquille et se réveillera sans doute avec le sourire, puisque le RN va quitter le palais du Luxembourg. Son seul sénateur, Stéphane Ravier, a perdu sa mairie de secteur à Marseille et donc ses grands électeurs. Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont donc s'effacer encore un peu plus de la Haute Assemblée, porte-parole des territoires.
Maxence Lambrecq, des manifestations partout en France aujourd'hui après les nominations de Gérald Darmanin, accusé de viol au ministère de l'Intérieur, et d'Éric Dupond-Moretti, très critique envers le mouvement MeToo à la justice. Des associations féministes appellent à un rassemblement à Paris, Lille, Nantes, Caen, Marseille ou encore Grenoble.
7h09, c'est le journal d'Hélène Philly. Le monde militaire est entré dans l'ère des drones et cela commence à inquiéter l'ONU.
Des centaines de pays les utilisent désormais pour surveiller, mais aussi pour tuer. C'est l'inquiétude de la rapporteuse de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires. Elle dénonce notamment le dangereux précédent créé par l'assassinat d'un puissant général iranien au début de l'année. On s'en souvient, les conditions de sa mort avaient entraîné d'importantes manifestations dans le pays. Correspondance signée Jérémy Lanche.
C'était le 3 janvier dernier. Le général Qassem Soleimani, figure incontournable du régime iranien, meurt dans une attaque d'un drone américain en Irak. Un acte illégal, selon la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard, et qui ouvre une boîte de Pandore.
Pour la première fois, un État a ciblé le représentant militaire d'un autre État dans un troisième État. Donc là, cela veut dire que n'importe quel ministre, notre ministre, ministre de la Défense en France pourrait être la cible d'une attaque au nom de l'autodéfense.
Sauf que les drones militaires ne sont plus l'apanage des États-Unis. Agnès Callamard s'inquiète de voir de nombreux pays s'en procurer, parfois seulement par prestige.
Les drones deviennent beaucoup plus rapides, ils sont beaucoup plus meurtriers et c'est presque une, je dirais pas une marque de respect, mais pour beaucoup d'États, c'est quelque chose qui est absolument recherché.
Sur la centaine de pays qui possèdent des drones militaires, 35 disposent de versions particulièrement meurtrières. Agnès Callamard leur demande de ne pas suivre l'exemple américain et de contribuer à mettre en place un système pour encadrer et limiter la fabrication, l'exportation et l'utilisation de ces nouvelles machines de guerre. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Washington a évidemment vivement réagi à ce rapport, le jugeant tendancieux. Les États-Unis estiment avoir agi en état de légitime défense en tuant le général Soleimani qu'ils décrivent comme l'un des pires terroristes du monde. Les États-Unis avec ce nouveau record de cas de coronavirus, 65 000 en 24 heures. Et plus au sud, deux nouveaux dirigeants diagnostiqués positifs. La présidente par intérim de la Bolivie est le numéro 2 du régime vénézuélien. Le virus circule aussi de plus en plus dans les pays du Maghreb, en Algérie particulièrement. La barre symbolique des 1000 morts approche. Le président a organisé hier une réunion de crise sur le sujet. Le tourisme, évidemment, souffre de cette crise sanitaire, mais entrevoit tout de même un petit espoir cet été. La France et la capitale Paris constatent en tout cas un retour des touristes étrangers, de nos voisins en réalité belges, suisses, allemands qui comptent bien profiter de leurs vacances et ils ne sont pas si rares sur les berges de Seine. C'est le reportage de Rachel Sadodine.
Le jardin des Tuileries est plutôt calme. Une famille de touristes belges se promène à vélo.
Là, on est au Louvre et on aperçoit l'Arc de Triomphe.
Prévu depuis 6 mois, pas question d'annuler les vacances. Mais Olivia, la maman, prend ses précautions.
Nous avons pris la voiture parce que c'est plus prudent. Nous sommes juste entre nous avec ma famille, donc je me sens en sécurité comme ça. Normalement, je suis une femme très sociable, mais maintenant, je n'ai pas envie de parler à des inconnus. On essaie surtout de respecter les distances.
Annika et Maria sont venues d'Amsterdam pour redécouvrir Paris sans ses hordes de touristes.
Je suis déjà venue à Paris et la ville était toujours bondée. Mais maintenant, avec le coronavirus, c'est vraiment tranquille, décontracté et calme. Donc on en profite.
Bloqués en Allemagne pendant le confinement, Kelly et John, un couple d'Américains, préfèrent visiter Paris plutôt que de rentrer au Texas.
J'ai l'impression qu'on est plus en sécurité ici qu'aux États-Unis, donc ce n'était pas trop effrayant.
On fait comme on a toujours fait, juste quelques précautions supplémentaires, comme porter un masque et respecter le protocole.
Et John d'ajouter, le Paris post-coronavirus, c'est encore plus beau que dans les films.
Hormis ce couple qui s'est retrouvé coincé en Europe pendant le confinement et n'est donc pas venu directement des États-Unis en France, les Américains restent interdits de séjour. À ce stade, l'Union européenne s'est accordée sur une liste de 15 pays autorisés à voyager sur notre sol, dont l'Australie, le Canada ou le Japon.
Merci Hélène Philly.